Aujourd'hui, on va continuer une série que j'ai commencée la dernière fois que j'ai amené la parole, par la grâce de Dieu, sur le « Quels sont nos combats? » C'est ce qu'on est rendu. Nous sommes préparés pour la guerre. Frères et sœurs, quand on a accepté Jésus, c'était pas pour s'asseoir puis dire « Tout est accompli ». C'est vrai que tout est accompli. Tout est accompli de la part de Jésus. Amen. Jésus a tout accompli ce qui avait à être accompli. Mais est-ce que le Saint-Esprit a fini d'œuvrer dans ce monde? Pas du tout. Il est encore en train de fortifier son Église. Il est encore en train de convaincre les gens dans le monde pour les amener au salut. Tout n'est pas encore accompli. On n'est pas sauvé pour s'asseoir. On est sauvé pour accomplir. Qu'est-ce qu'on accomplit? On accomplit les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Nous devons, les uns les autres, nous devons saisir la vision que nous sommes en guerre, nous sommes en train de livrer un combat, puis aujourd'hui, on va voir un des aspects du combat que chaque chrétien sur la terre a à livrer. Puis, il est important de saisir cela, parce qu'il y en a qui sont tombés. Mais on va prier le Seigneur afin que le Seigneur parle à nos cœurs par sa parole. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés, sachant tout d'abord que tu es là, Seigneur. C'est toi qu'on est venu rencontrer. Puis on veut entendre ton Saint-Esprit parler à nos cœurs, Seigneur, par ta parole. Puis je te demande de faire une œuvre en profondeur dans nos vies, que cela puisse nous fortifier, nous solidifier, qu'on ait les deux pieds bâtis sur ta parole, puis qu'on demeure ferme jusqu'à la fin pour entreprendre les combats que tu nous as appelés. Je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va voir le premier et le plus grand combat de tous les chrétiens. Puis, je crois que s'il y a des gens qui réalisent pas que c'est là, il y a c'est pas des chances, mais il y a un malheur qui pourrait ne pas se rendre jusqu'à la fin. Le premier combat que la Bible nous parle, on va voir, il y a quatre genres de combats que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, on voit le premier. C'est le combat de la foi. Dans parenthèse, la persévérance. De garder la foi jusqu'à la fin. C'est correct d'avoir accepté Jésus. Merci Seigneur de nous avoir révélé qu'on peut s'être sauvé par son Fils. On a saisi l'offre qui nous est offerte, là, X temps, puis on s'est engagé à le suivre, à le servir. Là, tout feu, tout flamme, la semence a produit quelque chose, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en nous, ça, on pète le feu quand on a accepté Jésus. Hein? Il y a des fruits de repentance, mais ça, c'est pas le but pour aujourd'hui. C'est la persévérance dans la foi. Notre vie chrétienne commence, on a professé de notre bouche qu'on a accepté Jésus. Mais on commence la vie chrétienne, on n'a pas accompli la vie chrétienne en acceptant. Il y en a malheureusement qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste d'accepter Jésus. Puis ils se basent toujours, quand ils parlent de leur foi, ils basent sur la journée qu'ils ont acceptée. V'là 10 ans, v'là 20 ans, ils ont accepté. Mais qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui de ta foi? C'est ça qu'il faut se poser la question. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, que nous disait Paul. C'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. Chaque jour, je dois persévérer dans la foi. Dans la foi pour mon salut, que ce n'est pas par mes mérites. C'est pas parce que je suis meilleur qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on est meilleur qu'on persévère. C'est parce que Jésus a tout accompli, il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour notre marche, le Saint-Esprit en nous, la parole puissante de Dieu, les armes de Dieu. Puis aujourd'hui, on peut encore avancer par la foi à chaque jour, avec tout ce que Dieu nous a donné, afin d'avoir la force de passer à travers ce qu'on a à vivre et de rester debout. Paul, il parle dans le premier passage qu'on va aller voir, 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11. Tous les versets vont être affichés sur le PowerPoint. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans votre Bible, ça va aller plus vite là. Regardez bien ce que Paul est en train de dire à un serviteur de Dieu, un homme qui était probablement enseignant, pasteur, soutien, il était co-ouvrier avec Paul, Timothée. Il dit, « Pour toi, homme de Dieu, Timothée est en train de se faire parler par Paul. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul est en train d'exhorter Timothée. Timothée, c'est un homme de Dieu, c'est un homme intègre, c'est un homme qui servait Dieu, c'est un homme qui accompagnait Paul dans ses voyages missionnaires, c'est une personne engagée dans l'œuvre de Dieu. C'est une personne qui connaissait les œuvres que Dieu avait préparées pour lui, puis il y avait un appel de suivre Paul, puis de l'accompagner dans ses œuvres missionnaires. Mais Paul, il s'aperçoit à un moment donné qu'il y avait comme un relâchement dans sa vie. Timothée commençait à être fatigué, il avait de l'air essoufflé dans sa marche chrétienne. Dans d'autres passages, Paul lui dit de ranimer le don qu'il avait reçu. C'est comme s'il avait besoin d'être encouragé. C'est pas mal d'avoir besoin d'être encouragé. Nous devons nous encourager les uns les autres. Ce qui ne serait pas correct, c'est de ne pas être capable de reconnaître qu'on a besoin de cet encouragement-là et de ne pas l'accepter en pensant « Moi, je suis correct. Moi, je n'ai pas besoin de changer rien. » Si on a une attitude comme ça, là, l'exhortation produite par le Saint-Esprit n'aura pas son effet. Notre orgueil nous bloque. Dieu veut faire une œuvre. Il n'y a pas un ici qui n'a pas besoin de ses frères et sœurs autour de lui. On est un corps. Puis on tire notre force, notre subsistance les uns des autres. On a besoin d'être rassemblés avec les frères et sœurs pour être encouragés, enseignés, corrigés, instruits, édifiés, fortifiés, priant les uns pour les autres, équipés, puis que notre vision pour l'œuvre de Dieu s'accroisse, puis qu'on puisse entrer dans cette œuvre que Dieu nous appelle. Paul il avait reconnu dans Timothée qu'il a besoin d'encouragement. Pourtant, Timothée avait été appelé pour le salut. Au verset 12, ça dit « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Tu as été appelé. Quand ça? Mais quand il s'est converti. Chacun de nous, on était appelé à saisir la vie éternelle. Quand on s'est converti à Jésus, on a entendu sa voix. Puis on a reconnu que Jésus t'a mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Puis on a reconnu qu'on était insuffisant pour gagner notre ciel. C'était impossible de le gagner. On a reconnu que Jésus avait tout accompli pour qu'on le reçoive. On était appelé. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, Seigneur, je crois. On l'a confessé. C'est ce que ça nous dit. Il avait accepté, puis il l'a confessé. Il a fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui, on le croit. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive de notre foi 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard? On a fait une confession, puis c'est pas là-dessus qu'il y a un reproche, là, c'est même pas un reproche, c'est un encouragement. Qu'est-ce qui en est de ta foi aujourd'hui, 10, 15, 20 ans plus tard? Puis là, il a besoin d'être encouragé, même s'il avait vécu toutes sortes d'expériences spirituelles. Sûrement que Timothée a imposé les mains aux malades, puis il y a des malades qui ont été guéris. Il a prié pour d'autres besoins, puis il y a eu des délivrances dans la vie des gens. Il était accompagné Paul, qui a vu des ministères de puissance, puis il était un soutien pour Paul dans l'évangélisation. Même si tu vis plein d'expériences à un moment donné, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas dans un moment où tu vas avoir besoin d'être encouragé. Puis tu dois réaliser que tu en as besoin. Parce que c'est le combat de notre foi. Je dois garder la foi. Je dois saisir cette vision-là, cet appel-là que j'ai reçu de Dieu, là. Saisis la vie éternelle. Il faut que ça devienne comme une priorité. Il n'y a rien d'autre qui compte que je persévère jusqu'à la fin. Il n'y a rien d'autre qui compte. Tu peux avoir vécu, tu peux avoir eu un nom, une renommée dans ce monde, tu peux avoir vécu des miracles, des signes, des prodiges que Dieu parle dans sa parole, tu peux avoir été auprès de grands prédicateurs dans le monde. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es rendu dans ta foi? Est-ce que tu réalises que ta foi a baissé? Est-ce que tu es prêt à accepter de te faire dire, Hey, là, il faut que tu gagnes ce combat-là. Reste dans la foi. Persévère dans la foi. Puis là, Paul est en train de dire, combat le bon combat de la foi. Paul lui parle comme s'il devait encore combattre. C'est pas quelque chose qui a été finalisé à notre conversion. C'est quelque chose que même 20 ans plus tard, on doit être encore dans la course. Comme si on n'est pas encore rendu. Paul, il dit, je dis pas que je l'ai déjà remporté, mais il dit, je cours comme. Puis, tu sais, il espérait être encore debout puis de persévérer jusqu'à la fin. C'est là qu'est le point, frères et sœurs, de réaliser qu'il y en a un qui va chercher, essayer de démolir votre foi, vous décourager, vous mettre des circonstances dans votre vie ou des épreuves ou des persécutions, des tribulations. Puis Dieu va permettre que ça vous arrive, ces épreuves-là, dans le but d'éprouver votre foi. C'est pas dans le but de vous faire chuter. Le diable, oui, c'est dans le but de nous faire chuter. Mais Dieu permet l'épreuve dans le but de nous purifier. L'épreuve de votre foi produit la patience. Puis à une autre place, ça nous parle que notre épreuve qu'on vit, c'est comme une fournaise. On passe au feu, puis tout le scorie sort. C'est là qu'on voit tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, puis que là, on peut devenir une foi de plus en plus pure devant Dieu. C'est dans ce chemin-là que Dieu veut nous amener. Le combat est dans le but d'une purification. Dans le verset que Paul y dit, dans le verset 11, il dit à Timothée, « Oublie pas que quand tu es dans la vie chrétienne, il y a des choses que tu dois fuir, puis il y a des choses que tu dois rechercher. » Le verset 11. « Fuis ces choses. » L'autre verset avant. « Fuis ces choses. » « Fuis ces choses, puis recherche. » Le combat, là, c'est ça. T'as à fuir certaines choses puis à rechercher. C'est ce qui va augmenter ta foi, qui va la solidifier, qui va te donner un zèle, un feu qui provient de l'Évangile pour marcher. Ben, aujourd'hui, on ne parlera pas de tout ce qu'on a à fuir, ni de tout ce qu'on a à rechercher. C'est juste comme un encouragement à garder la foi. Parce qu'il y a d'autres messages qui vont venir. Le péché en général. La prochaine étude va être quels sont nos combats, c'est de combattre le péché. Puis il y en a trois autres prêches qui vont être sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est juste persévérer dans la foi. Pas laisser rien nous ébranler. Si Paul est en train de parler à Timothée, puis il est en train de dire, là, c'est comme si on ressent là, dans ces versets-là que Paul s'inquiéterait de l'état spirituel de Timothée. Là, il dit, là, t'as des choses à fuir, t'as des choses à rechercher, puis tu dois combattre le combat, saisir la vie éternelle, la belle confession que t'as faite, là. Rappelle-toi de cela que t'as fait. Tu t'es engagé à suivre le Seigneur, puis t'as marché un bout. Mais Paul, c'est comme s'il y avait un doute sur l'état spirituel, puis c'est là-dessus qu'on va débattre aujourd'hui. C'est un avertissement, puis il y a des... Je vais un peu, par la grâce de Dieu, démêler certains versets du Nouveau Testament que des gens qui le prennent dans la mauvaise manière. Puis ça crée une confusion, ça a même créé des divisions. Le thème que je vais embarquer, puis s'il y en a qui sont pas d'accord avec la manière que je le présente, je vous encourage à écouter jusqu'à la fin. Puis je suis sûr qu'à la fin de la conclusion, on se rejoint. Peut-on sortir de la grâce de Dieu? La bonne question. Dans d'autres termes, peut-on perdre notre salut? Peut-on s'égarer et faire un naufrage dans notre foi? C'est ça qui est la bonne question. Parce qu'il y a des versets qui nous assurent qu'il n'y a pas de danger, puis il y a d'autres versets qui nous parlent que oui, il y a du danger. On va démêler des idées. Est-ce que Paul avait raison d'encourager Timothée sur son salut? En Romains 19, ça nous dit pourtant, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est clair. Sauf que c'est pas toute la vérité. La Bible est la vérité, mais un verset isolé n'est pas toute la vérité. C'est une partie de la vérité. Puis quand on interprète les versets, il faut aussi tenir compte des autres versets qui parlent du même sujet pour faire un ensemble. Puis quand là, on tient compte d'une vue dans l'ensemble, là, on peut se faire une meilleure idée de la pensée de Dieu. Comme je le sais, tout le monde le sait, mais je vais le répéter, la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu. Il y a un verset que c'est écrit, il n'y en a point de Dieu. Ben, ça, c'est un bout de phrase qui est là. Mais il faut tenir compte de ce qui est écrit avant. Ça dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ben, si je sors ce verset-là de son contexte, puis j'utilise pas les autres versets, mais d'interpréter ce verset-là, je peux faire dire n'importe quoi à la Bible. Même pour le plan du salut. Le plan du salut, là, c'est pas juste confesser et croire. Parce que là, faut que tu comprennes la portée de croire puis de confesser. Et tu seras. Seras, c'est comme si Dieu te le garantit, il t'a donné, mais est-ce que tu vas être encore là à la fin? Si on compte uniquement sur Dieu va tout faire, pourquoi que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus? Si Dieu avait le pouvoir de tout accomplir, de tout faire par lui-même, puis que les humains n'auraient pas qui n'aura pas d'effort, mais que leur décision compte pas, mettons, si leur décision ou leur volonté ne compte pas, ou si leur parole ne compte pas, leur agissement ne compte pas, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui t'amène, mais pourquoi qu'il appellera des gens puis il n'a pas l'intention de les sauver? C'est parce qu'il y a quelque chose à quelque part que ça dépend de l'humain aussi. Quelle est notre réponse face au verset? Est-ce qu'on a la foi dans ce qui est écrit? Est-ce que nous gardons la foi? Là, je veux pas trop aller là, je vais continuer mon idée. Il y a encore des versets puissants, des versets extraordinaires que Jésus nous a dit. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, là, c'est un verset puissant. Jésus nous dit que personne ne peut vous enlever de sa main. Mais quand tu expliques l'ensemble de cette idée-là, il faut que tu tiennes compte aussi de ces versets-là. Puis quand on parle du mot « ravira de ma main » dans le grec, Louis II, il a écrit « ravira », mais le sens qui peut être compris dans le dictionnaire Strong, c'est « s'emparer, enlever, à ravir ou à arracher. Personne ne peut nous ravir de sa main. Personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. Personne ne peut nous ravir, nous enlever ou s'emparer de nous quand on est dans la main de Jésus. Saisir, enlever de force. Personne ne peut nous enlever de force dans la main de Jésus. C'est ça qui est le sens du mot. Mais est-ce que ça comprend l'ensemble du plan de Dieu, ce verset-là. Regardons une autre parole de Jésus. Parce que les promesses de Jésus sont conditionnelles. Plusieurs promesses sont conditionnelles. Le fait d'accepter, ça dit, si tu le confesses, c'est conditionnel. Mais il y en a d'autres promesses, puis on va voir qu'en lisant d'autres versets, ça nous contrebalance l'idée. Dans Jean 15, 4, c'est encore Jésus qui parle. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Si je regarde ce verset-là, c'est en train de dire, Jésus nous parle. Il parle à ses disciples. Il est en train de leur dire, « Demeurez en moi. » Puis il dit, « Si vous demeurez en moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas en porter. » Il y a comme une condition. Tu veux porter du fruit dans ta vie chrétienne, tu veux marcher dans la victoire, il y a une condition. Demeure en lui. Demeurer en lui, c'est demeurer en communion avec le Seigneur. C'est une communion qu'on doit garder. Accepter Jésus, c'est une chose, puis demeurer en lui, ça n'est une autre. Puis là, il dit, si tu demeures pas en lui, tu peux pas en emporter de fruits. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire si je prends ces deux versets-là? Jésus dit, personne ne va y ravir de ma main. Puis d'un autre côté, il nous dit, demeure en moi. On voit que c'est la volonté de l'individu de répondre à l'appel, oui, mais de demeurer en communion avec le Maître. Ça, ça veut dire, je décide de demeurer dans sa main. Demeurer en lui, c'est demeurer en sa main. Il dit, personne d'autre va t'enlever de sa main. Mais il dit à toi de demeurer là, parce qu'on aura la volonté, malheureusement, on peut avoir une volonté de débarquer. Malheureusement, on peut avoir une volonté de débarquer. Notre volonté, s'il n'est pas ajustée avec la parole dans un désir de vouloir rester en lui, on peut négliger, on peut se relâcher, on peut refuser même les encouragements, comme Timothée aurait pu dire, « Oh, Paul, le moins, là, je suis moins, là, puis le moins, je sais où ce que je m'en vais, j'ai pas besoin que tu viennes me dire. Bon. » Puis là, on se laisse aller, puis on débarque tranquillement, puis on se refroidit. Il y a d'autres versets qui vont nous parler dans cette idée-là. Le fait qu'une personne relâche ou abandonne le Seigneur ne veut pas dire que le Seigneur n'avait pas le pouvoir de la garder. Il n'y a personne qui nous ravit de la main du Seigneur. C'est nous qui avons le pouvoir de demeurer en lui ou de se retirer. Parce que Dieu ne travaille pas contre notre volonté. Il n'a pas fait de nous des robots, des gens qui donnent un ordre et on oublie automatiquement. Toute la base de notre vie reste sur une liberté d'accepter, d'obéir ou de se rebeller ou de chercher ce qui va nous fortifier, de fuir certaines choses ou de les accepter. Puis ça a un impact dans notre vie. On a des conséquences directes dans notre vie. Puis c'est pas à cause du diable, c'est pas à cause du monde, c'est pas à cause de notre chair nécessairement qu'on va dire, oh, ça a faute. Non. C'est notre faute. Ou c'est de notre bonheur si on persévère, parce qu'on a accepté le Seigneur, c'est une bénédiction, notre volonté décide de se soumettre à sa volonté, on accepte le renouvellement de notre intelligence, on commence à combattre, faire mourir notre chair, résister au diable, résister au monde, puis on se fortifie par l'Esprit de Dieu dans le Seigneur, puis par la parole de Dieu. On marche, puis on est dans la victoire parce qu'on marche, mais si notre volonté défaille, puis on commence à se laisser aller, puis on commence à négliger, puis qu'on commence à pas aller chercher les armes et la puissance de Dieu, puis de pas combattre, on prend du recul, on vient rétrograde, puis on voit d'autres versets qu'on va voir tantôt, il y a un danger quand c'est rendu là. Dans toutes les promesses de Dieu, elles doivent être saisies et gardées par la foi. Moi, si j'ai accepté Jésus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, accepte le Seigneur et tu seras sauvé. Je l'ai accepté, je me suis repenti, j'ai cru, j'ai saisi par la foi et je me suis mis à dire aux autres, je suis sauvé, le Seigneur est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, j'ai la vie éternelle. Nous croyons et nous confessons. On saisit par la foi ce qu'on a appris. Mais toutes les promesses de la Bible, c'est la même chose. Pas juste pour le salut, pour les guérisons. Je dois saisir la promesse pour une guérison. Je dois la confesser. Je dois prier dans ce sens-là. Je dois y croire. Je dois confesser. Tu sais, puis garder la persévérance dans l'intercession dans ce sujet-là. Mais si je commence à prier pour une affaire, puis j'abandonne avant que ça arrive, j'ai pas de persévérance. Puis la Bible nous l'enseigne, faut persévérer. Les promesses sont toutes dans la Bible, mais elles doivent être saisies, confessées, gardées afin qu'elles s'accomplissent. Puis Dieu veut nous donner de la maturité pour qu'on soit des gens qui saisissent les promesses. La Bible nous enseigne que nous devons persévérer dans la foi. Où est-ce que c'est écrit? Matthieu 24, 13. La fin de ce verset-là, ça dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans ce passage-là, dans le contexte, ça nous parle de persécution, de souffrance, la grande tribulation, les épreuves sur la terre, dès la terre, la puissance des cieux va être ébranlée, il va y avoir des étoiles qui vont tomber du ciel, et ainsi de suite. Ça va être grave, ce qu'il va y avoir sur la terre. Mais le Seigneur nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Est-ce qu'il y en a qui risquent d'abandonner? Là, je suis entre parenthèses. Judas a abandonné. Il est allé un des 12. Ouais, mais il y en a qui vont dire, oui, mais c'était pour accomplir ce qui était écrit à son sujet. Pourtant, Jésus avait le même pouvoir de le garder, lui, que de garder les 11 autres. Les 11 autres, il a dit, je les ai gardés, puis ainsi de suite. Puis Judas, il a lâché. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, il a lâché, c'est vrai. Mais c'était pour accomplir certains versets qui parlaient qu'il y en a un, celui qui mange le pain avec lui, il lèvera le talon contre lui. Il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir. Mais, il y a d'autres versets, écoutez bien celle-là, il y a d'autres versets aussi qui doivent s'accomplir, puis qui parlent qu'il y en a qui vont abandonner la foi. Puis c'est pas des promesses, c'est des constatations, parce que Dieu veut pas que le monde abandonne. Mais, Paul, Pierre en a parlé, Jacques en a parlé, Jean en a parlé, des gens qui sont au milieu de nous, mais il était pas des nôtres, parce qu'il aurait été des nôtres, il serait demeuré. Mais il y a du monde qui vont marcher, ils vont recevoir, puis qui vont abandonner. Puis il y a plein de versets, j'y verrai pas tous, je vais vous en lire quelques-uns pour nous mettre dans cette idée-là. Puis là, malheureusement, autant que Jésus nous a dit qu'il nous garderait, puis il a promis de le faire, puis tant que tu vas rester là, il va te garder. Mais il y en a qui vont abandonner, puis ça va juste pour être accomplir les autres paroles du Seigneur dans le Nouveau Testament qui parlent qu'il y en a qui vont abandonner. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Malheureusement, pour que cette parole-là s'accomplisse, il y en a qui vont faire partie des élus, qui vont abandonner, puis ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils abandonnent quoi? Ils abandonnent la foi. C'est ça que ça dit dans ce verset-là. Puis ils décident de mettre leur foi dans d'autres choses que la parole de Dieu. Ils décident de mettre leur foi dans une religion, dans une secte, ou carrément dans les enseignements du monde. Peut-être qu'ils ont décidé de croire que l'évolution, on est juste le fruit d'évolution, puis c'est le hasard, c'est par hasard qu'on est sur la terre, puis c'est une erreur dans la nature que tous les humains sont là. C'est une évolution de cellules régénérées, puis on s'est transformé là, qu'il n'y a aucune raison pourquoi qu'on est là, puis il n'y a aucune raison aussi pour qu'est-ce qu'il va y avoir dans la suite. Il y en a qui croient ça. Il y en a d'autres qui vont s'attacher à prier Marie. Moi, je connais, j'ai vu moi-même sur Internet le témoignage d'un pasteur pentecôtiste qui a abandonné sa foi, puis il disait que là, il a eu un contact, que Jésus lui aurait dit, « Pourquoi faire, tu n'aimes pas ma mère? » Puis là, ça l'a amené dans sa vision, ça l'a amené à aimer la mère de Jésus, puis ça l'a amené à rendre un culte à la mère de Jésus, puis ça l'a amené à rendre un culte aux autres saints, puis il est devenu catholique. Il a abandonné la foi. Je dis pas qu'il peut pas se repentir avant de mourir, et ça, tant que tu n'as pas traversé la voie de non-retour, tu peux encore venir avec repentance, puis Dieu va t'accueillir. L'enfant prodige, c'est la parabole de l'enfant prodigue, c'est une preuve que l'amour de Dieu va accueillir celui qui était le fils, parti dans le monde, puis qui a décidé de revenir, puis le Père renouvelle l'alliance, et ainsi de suite, puis il donne une robe, puis il y a plein de choses que Dieu veut nous enseigner là-dedans, c'est très beau, mais le point est, est-ce que ça peut arriver que quelqu'un abandonne la foi et s'attache à des esprits séducteurs, des doctrines de démons? Fait que là, on a à faire face à des esprits puis des démons qui font des apparitions au peuple de Dieu. Puis là, les gens commencent à croire plus leur apparition que qu'est-ce que la Bible enseigne. Puis là, ils s'attachent à ces visions et à ces révélations-là qui sont pas bibliques. Puis ils s'éloignent de la vérité, puis ils se tournent vers le mensonge, puis abandonne la foi. Matthieu 24, le verset 12-13. C'était juste le verset avant que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 12, il dit, Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Là, on est en train de parler dans l'Église. Dans la fin des temps, il va y avoir un refroidissement de l'amour dans l'Église, là, l'amour produit par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, là, parce que la charité, c'est produit par le Saint-Esprit, que la Bible nous dit, les fruits de l'Esprit, c'est la charité, l'amour. Bon, mais cet amour-là qu'on est supposé vivre par le Saint-Esprit, il va y avoir une diminution de cet amour-là, puis ça nous dit même la cause pourquoi que ça va arriver. Parce que l'iniquité va s'accroître. Le péché va s'accroître. Le fruit de la relation avec le Saint-Esprit va diminuer. Parce que le fruit de notre relation, c'est l'amour, c'est la charité. Si le péché augmente dans l'Église ou dans nos vies personnelles, qu'est-ce qui se passe? Notre amour diminue, puis c'est un des signes d'avant le retour du Seigneur. 2 Pierre 2, le verset 20. Si en effet, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, ça veut dire quoi ça, juste cette phrase-là? C'est que des gens qui finissent par connaître le Seigneur Jésus, ça leur donne une puissance qui fait qu'ils se séparent du monde, ils se séparent des souillures du monde. Ils ont accepté Jésus, puis le fait d'accepter le Seigneur dans ta vie, le Saint-Esprit vient, puis t'es déjà en train de combattre. Puis tu te sépares des souilleux de ce monde. Mais là, ça nous dit, même après que ça soit arrivé, là, si après s'être retiré des souilleux du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, ça veut dire quoi, là? C'est du monde qui ont abandonné la foi, ils ont abandonné leur fermeté dans le combat, ils sont retournés dans leur ancienne vie. Ils ont été vaincus par ce que le monde leur offrait. Ils sont rétrogrades. Ça dit que leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue. Du saint commandement qui leur avait été donné. Puis là, ça nous dit, il est arrivé ce qu'un proverbe vrai. Ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée est allée se vautrer dans le bourbier. Fallait que ça s'accomplisse certaines choses des versets qui nous parlent de ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais malheureusement, il y en a qui ont connu, qui ont goûté, qui ont pris part, comme c'est écrit dans Hébreux, mais ils sont tombés. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre sacrifice que Jésus pour être sauvé. C'est grave. Faut pas attendre d'être rendu à ce niveau-là, au point où les plaisirs de notre vie passée sont plus attirants que la vie de victoire puis la marche en communion avec le Saint-Esprit. C'est à peu près comme le peuple juif qui est en chemin vers la terre promise, puis qu'il considérait encore l'Égypte comme étant une place à retourner. Au moins, à cette place-là, on avait de quoi manger. Il était dans une lourde servitude, il se faisait battre, puis il faisait des briques, puis il faisait tuer leurs enfants, puis ainsi de suite. Puis il aimait mieux vivre dans toute cette misère-là pour certains avantages dans le monde. Des avantages semblerait qu'il ne les retrouvait pas dans la nouvelle marche avec le Seigneur. Pourtant, quand ils ont demandé de la viande, le Seigneur les en a envoyés. Ils ont demandé de l'eau, le Seigneur les a envoyés. Ils ont été 40 ans dans le désert, le linge ne s'usait pas. La promesse d'entrée était là, puis ils s'en allaient par là. Qu'est-ce qui peut être les choses qui nous attireraient au point qu'on retourne dans notre ancienne vie, comme le chien qui est allé ce qu'il avait vomi, ou que la truie qui était lavée, elle s'en va se rouler dans la boue. Un chrétien sanctifié qui décide de retourner dans son ancienne vie. Mais la Bible nous dit dans ce verset-là que ça aurait été mieux qu'il ne l'ait jamais connu que de s'en détourner. La condition est pire que la première. Paul prédit une apostasie avant le retour du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, ça nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, jusqu'à ce qu'il s'assoie dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire, le mot apostasie? Oui, mais le sens du mot grec que là, c'est une racine du mot divorcer. C'est l'action de s'éloigner, une désertion. Quand ils désertent, les déserteurs dans l'armée, là, ils se font passer au cash, hein, quand ils se font pogner, ils se font tirer. Ils passent au peloton d'exécution. Tu n'as pas le droit dans l'armée du monde de déserter ton armée. Mais dans le Seigneur, il y a des gens qui vont déserter. Un autre verset dans le même sens qui veut dire défection. Quand tu répares une rue, tu fais une réfection, tu répares. Mais là, quand tu fais une défection, c'est que tu décides de tout casser, qu'est-ce qui a été fait. Puis le sens du mot apostasie, c'est le même mot que divorce, avec juste une lettre de plus. Ça veut dire que des gens qui ont décidé, moi, je divorce du Seigneur. Ah, ils disent peut-être pas de leurs mots comme ça, mais ils font dans leur action. Ils ont décidé d'abandonner le chemin étroit et resserré qui mène à la vie pour se tourner vers le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Ils ont décidé de croire en d'autres choses. Quand on parlait tantôt d'abandonner pour une autre religion, Paul y avait dit aux Galates, il dit à ceux qui voulaient se faire circoncire, ils voulaient retourner à la loi. Paul leur a dit, vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. Il dit, celui qui veut se faire circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Dans d'autres passages, il dit, personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. Il n'y a personne qui peut arriver à dire, je gagne mon ciel par la loi de Moïse, puis là, je veux me faire circoncire pour appliquer les principes. Mais si tu te fais circoncire, tu es tenu de la pratiquer au complet. Puis Paul lui dit, tu es déchu de la grâce. Tu es séparé de Christ parce que tu penses être sauvé dans d'autres choses. Dieu veut qu'on demeure dans la foi. Toutes ces paroles-là, il dit que ça va arriver. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il va avoir, comme je disais tantôt, le péché va augmenter, il va avoir une diminution de la charité. Puis là, ça dit, ça c'est avant que l'Antéchrist paraisse, ça dit qu'il va y avoir une apostasie qui va arriver auparavant. C'est que les gens, ils vont commencer tranquillement à tasser la Bible, puis ils apprendront plus comme une source, la seule source de la vérité. Là, sous prétexte, c'est déjà commencé, sous prétexte d'avoir des avantages dans ce monde, ils vont s'unir avec des fausses religions, les esprits séducteurs, doctrines de démons. C'est là qu'on rentre dans, écuménique. C'est qu'on pense que l'écuménique, c'est un plus devant Dieu. On s'unit avec les autres doctrines qui n'ont même pas rapport avec le plan du salut décrit dans le Nouveau Testament. Puis là, on brotu avec les faux prophètes. Parce que pour moi, excusez-moi de vous le dire, je ne crois pas que la doctrine de la parole de Dieu est enseignée l'enseignement de l'Église catholique que j'ai entendu. Là, je sais qu'il y a il y a des endroits dans le monde où ce que l'Église catholique, leur doctrine n'est pas la seule qu'on entend ici. Mais la seule que moi j'ai entendue, là, être sauvé en faisant chanter des messes, t'es en communion avec le Christ, avec le Dieu hostie, puis là tu te mets en prière pour prier Marie pour ton salut. Toute cette doctrine-là, c'est de la fausseté. Mais c'est des faussetés d'esprit séducteur, doctrine de démon, puis les gens pour être œcuméniques. On a des avantages à être unis. On est en train d'abandonner la foi. On est en train de se refroidir. On est en train de voir l'apostasie. Puis là, la seule que j'ai mentionnée, que j'ai vue dernièrement, c'est l'œcuménique, mais avec les musulmans. aux États-Unis, c'est rendu là. Rick Warren enseigne ça. Oui. Il est l'un des premiers pionniers de ça. Il est photographié avec les gens qui font de ça, puis il en parle comme étant une chose positive. Il peut avoir des versets puis les enseignements qui proviennent de la parole de Dieu, mais une affaire comme ça, pour moi, j'embarque pas là-dedans. J'aimerais mieux rester tout seul puis de rester à persévérer dans la parole que de me voir en train de joindre ces mouvements-là qui c'est complètement antibiblique. Le Jésus des musulmans n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus. Comme le Jésus des catholiques, c'est pas le Jésus de la Bible. On n'a pas embarqué là-dedans. Nous, on fait affaire avec le Yeshua, qui est le nom au-dessus de tout nom. Il est Dieu de toute éternité. Il était Dieu auprès de son Père, puis il est le créateur de toutes choses. Puis il est venu en forme humaine. Il n'est pas l'ange Michael ou quoi que ce soit de ces faussetés-là. Il est venu en forme humaine, il a accepté de payer la dette de nos péchés, il est ressuscité le troisième jour, il est allé présenter son sang devant son Père. C'est grâce à son sacrifice qu'on a le pardon, pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, pas parce qu'on performe plus que les autres, parce qu'on a saisi par la foi que c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous donne d'être sauvés. Ça, c'est le vrai plan. On persévère dans la foi, dans la vérité de la parole de Dieu qui est ça. C'est pas les musulmans qui sauvent, c'est pas Allah, ça n'existe pas. C'est pas le Jésus des catholiques, puis Marie qui est la mère de Dieu, ça n'a pas rapport au salut, c'est toute une fausse doctrine. Nous, on en reste attachés à ce qui est là. Comment ça peut arriver que des gens divorcent de Dieu, de Jésus? C'est une répudiation. Ça, là, quand tu es marié avec quelqu'un, là, puis tu décides de te divorcer, c'est parce que tu décides de mettre un rompre, tu décides de rompre, de mettre un terme pour arrêter le contrat d'alliance qu'on a avec notre épouse. On a fait une promesse, oui, je l'accepte, oui, je le veux, on signe, on a un contrat d'alliance pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis la Bible nous dit, à cause qu'on s'est marié devant Dieu, Dieu nous unit et qu'on devient une seule chair. Mais là, il y a des gens sur la terre décident, on rédige un autre papier. Jésus les a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis ça, le divorce. On fait un papier, puis on signe, je renie ma femme, je veux plus rien savoir, puis je donne ce que je dois, puis that's it, qu'elle fasse sa vie, moi je veux décider de refaire la mienne. C'était pas le plan de Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est biblique. Maintenant, il y en a qui séparent ce que Dieu a uni au niveau spirituel. Je suis uni au Christ dans ma communion avec lui par le salut qu'il m'a offert à travers de son œuvre accomplie à la croix. Je fais qu'un avec lui. Jésus a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mais là, on décide, moi, Seigneur, j'ai plus de temps de m'occuper de demeurer en toi. Moi, je veux faire ma vie, puis j'avais bien du fun quand j'étais dans mon ancienne vie. Là, on décide de retourner là ou s'en aller vers de fausses religions, puis on divorce. On rend ça quasiment officiel, là, puis on n'est pas gêné de le dire. Moi, avant, j'étais chrétien, mais je me suis aperçu, une autre personne qui a dit ça, puis il était un gars qui travaillait pour l'œuvre de Dieu, puis il avait des âmes qui se convertissaient, puis ainsi de suite. Il dit là, ce que j'ai vécu dans le temps, c'est une expérience cosmique. Puis là, on part avec une idée, on est comme en train de renier toute l'œuvre du Saint-Esprit, puis de l'œuvre de Jésus, puis de la foi qui est dans les choses qui est écrites. Puis on se met à confesser ce que le monde enseigne avec leur fausseté. Hébreux 6, le verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail puis l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, irritent des promesses. Ça, là, ce verset-là, il y a du stock. Il y a du stock. Il est en train de nous dire qu'on a des personnes à imiter. Les seules qu'on doit imiter, là, c'est ceux qui ont la foi, puis la persévérance pour hériter des promesses. Il veut pas qu'on se relâche. Il veut qu'on conserve jusqu'à la fin la même espérance que quand on s'est converti. Malheureusement, c'est pas ça qui va arriver, mais là, je parle pour ceux qui sont ici. On est en train, par la grâce de Dieu, les versets qu'on voit là, c'est pour arriver dans le positif. On comprend qu'il va en avoir qui va abandonner. Nous ne sommes pas obligés d'abandonner. Nous devons être de ceux qui vont imiter ceux qui ont la foi puis la persévérance pour hériter des promesses. Moi, je veux persévérer jusqu'à la fin. Combien est-ce qu'il y en a ici qui veulent persévérer? Gloire à Dieu, puis le Seigneur vous voit, puis le Seigneur veut aussi vous garder dans sa main. Personne ne va vous enlever de sa main. Vous aviez le droit de débarquer, mais vous avez encore le droit de rester, puis vous avez le droit de vouloir persévérer, puis à cause de votre persévérance, vous allez hériter. Amen. Gloire à Dieu. Combattons jusqu'à la fin, encourageons-nous et exhortons-nous à persévérer. C'est ce que Paul a fait avec à Timothée. Puis Timothée, il a de l'air avoir accepté les encouragements de Paul. Dans Hébreux 3, verset 14, nous sommes devenus des participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous devons continuer à être à l'écoute de sa voix et ne pas nous endurcir par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. Nous ne devons pas nous laisser refroidir, nous devons être à l'écoute de sa voix. Dieu nous parle tous les jours, par son esprit, par sa parole, par les frères et sœurs, pour ceux que ça les intéresse, à la cellule maison chez nous, il y a plusieurs semaines, j'ai commencé une étude qui parle sur l'appel de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Là, je suis rendu au 14e message là-dessus, dans cette ligne-là. Dieu veut qu'on développe l'écoute. Quand que je suis en train d'emporter la parole, avez-vous entendu Dieu parler à travers de ce que je vous ai dit? J'espère que oui. Mais Dieu vous a parlé. C'est pas moi. Moi, je fais juste transmettre qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai eu comme révélation, puis je vous le dis. Dieu vous a parlé de... Quand vous allez être chez vous, vous allez ouvrir votre Bible, Dieu va vous parler. Quand vous allez être en prière, vous allez être à l'écoute de ce que Dieu va vous parler. Dieu veut que vous appreniez à écouter sa voix. Puis à pas endurcir votre cœur. Parce que ça peut arriver qu'on vit des périodes où ce qu'on n'écoute plus. On est là parce qu'on est là, mais notre cœur n'est pas là, puis on a comme déconnecté. Mais si on est dans cet état-là, là, il faut demander pardon, puis il faut demander à Dieu de nous renouveler. Pour qu'on reconnaisse la voix de Dieu, puis être à l'écoute, puis Dieu va vous nous conduire. Il dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Il faut suivre. Puis restez à l'écoute. Puis comme qui dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les croyants fervents comme Paul, ils peuvent dire, dans Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, c'est là qu'on doit être comme Paul, là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Êtes-vous de l'étoffe de Paul? Êtes-vous capable de dire comme Paul, « Moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Il faut que vous ayez cette pensée-là comme ça. Moi, quand je me suis converti, là, une des pensées que je me rappelle que j'ai eues devant le Seigneur, là, j'étais conscient de l'appel de Dieu, puis je voulais répondre à l'appel de Dieu, puis je croyais, puis je vivais une relation avec le Seigneur. Puis c'est comme si ça me disait, mais en même temps, je prenais position pour ça. J'ai dit, quand même que je verrais tout le monde abandonner, moi, il faut que je persévère jusqu'à la fin. Il faut qu'on pense comme ça. Je ne me rappelle pas, mais... c'est biblique de penser, puis Paul, c'est ça que tu es en train de dire, on n'imite pas et ceux qui lâchent, on n'imite pas les lâchons, on imite ceux qui persévèrent. Il y a des promesses extraordinaires pour ceux qui veulent s'accrocher, pour nous donner de la confiance en Dieu qu'il va nous conduire jusqu'à la fin. Un exemple, Philippiens 1:6, Paul il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » On a le droit de croire que Dieu me garde dans sa main, personne ne va m'enlever de là, puis ce qui a commencé en moi, il va la rendre parfaite. On reconnaît et on confesse que notre victoire vient de Dieu, puis on veut que cette victoire-là soit en nous et qu'elle, cette promesse-là, on veut l'avoir nous aussi. 1 Pierre 5:10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. » Ceux qui sont à l'écoute de Dieu, ils peuvent saisir par la foi cette promesse-là, puis ils vont l'expérimenter. Dieu me garde dans sa main, c'est lui qui a commencé cette œuvre-là, puis il va me perfectionner, il va m'affermir, il va me fortifier, puis il va me rendre inébranlable. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a la foi qui est capable de confesser ça. Mais il ne faut pas se servir de ces versets-là à ceux qui l'ont pas, la foi. Puis Jean 10, 28, c'est là qu'on rentre dans le vrai sens. On l'a lu au début. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne va m'enlever de la main de Jésus. Puis il parle aussi de la main du Père. Si tu as la foi, tu peux confesser cela. Puis si tu es dans ceux qui ont abandonné la foi, mais qui prennent ce verset-là pensant, « Oh, mais on ne peut pas perdre le salut. » Je regrette, c'est un verset qui n'est pas appliqué dans le contexte. Appliqué dans le contexte, c'est ces brebis, mais tout en parenthèse, qui ont la foi, qui sont demeurés en lui, qui s'accrochent aux promesses, qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est ceux qui vont faire partie de ceux qui débarqueront pas, mais qui vont être gardés, fortifiés, protégés. Puis Dieu va nous amener jusqu'à la fin. Sommes-nous de ceux qui veulent faire partie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin? On va prier. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole. Donne-nous de réaliser, Seigneur, le combat de la foi. Tout ce qu'on a à combattre pour persévérer dans tes voies, à ne pas se laisser détourner par quoi que ce soit, mais qu'on garde les deux pieds bâtis sur tes promesses de ce qui vient de ta parole, puis qu'on persévère jusqu'à la fin, sachant que ces promesses-là sont pour nous. Je te remercie de parler à nos cœurs pour ta parole. Garde-nous dans ta main puissante, puis on remet nos vies entre tes mains, Seigneur, à ta grâce, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.